Rencontre.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette émission consacrée au père Zanotti Sorkin. Père Zanotti, bonjour.
Bonjour, chère Anita. Merci de m'accueillir si gentiment.
Père Michel-Marie, nous allons parler de deux événements. Alors, un événement éditorial, c'est votre livre, votre nouveau livre, L'Évangile à cœur ouvert, chez Robert Laffont. Et le deuxième événement, c'est en janvier, le 19, à Paris, au Théâtre National Athénée Louis Jouvet, et vous donnez un concert. Alors, nous allons parler tout d'abord du livre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la quatrième de couverture. Vous avez mis cette phrase de Malraux: je crois que Jésus est le seul anarchiste qui ait vraiment réussi. Vous provoquez, là.
Je ne provoque pas, je crois dire la vérité. Oui, en effet, enfin, un anarchiste, comprenons-nous, un révolutionnaire, oui, mais pas avec une pique, avec une tête au bout, mais un révolutionnaire qui est venu apporter tout simplement la vraie pensée de son père. Et donc, il s'est affronté à des hommes qui n'ont pas voulu recevoir cette pensée dans toute sa beauté.
Père Michel-Marie, aussi bien votre livre, L'Évangile à cœur ouvert, que votre concert, que les chants que vous proposez s'ancrent dans votre ministère sacerdotal très profondément, un ministère qu'actuellement vous exercez chez les auxiliaires du cœur de Jésus, au pied du cœur de Jésus à Montmartre. Qui sont ces auxiliaires du cœur de Jésus dont vous êtes en quelque sorte l'aumônier, et comment ancrez-vous ce ministère ad extra auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans cette direction spirituelle forte?
Bien, écoutez, je suis, oui, en effet, très heureux de pouvoir servir ce mouvement spirituel qui s'appelle les Auxiliaires du Cœur de Jésus, qui a été créé au début du XXe siècle par une laïque, Hélène Villefranche. Ce sont des femmes qui sont vouées à Dieu, qui ont donné leur vie, mais qui vivent dans leurs conditions habituelles. Vous voyez, il y a même des gens mariés qui sont là et qui vivent de l'amour de Jésus, qui prient pour la France, qui s'occupent du clergé aussi, qui a ce souci des prêtres et qui en même temps cherchent à vivre vraiment du cœur du Christ. Alors, je mène mon ministère auprès d'elles. C'est ici, à Montmartre, là où nous sommes, que je reçois sans discontinuité. Voyez, je peux vous dire que depuis quelques mois, j'ai reçu plus de 600 personnes ici. J'essaie de donner quand même du temps, au moins une demi-heure avec chaque personne. Et je suis très frappé de voir tous ces êtres qui ont besoin d'exprimer, autant sur le plan spirituel que sur le plan humain, tout ce qui les occupe. Donc mon ministère, c'est d'abord, je dirais, comme le Christ, mais évidemment, je ne me compare pas, un ministère de rencontre. Parce que tout se fait à travers la rencontre personnelle. Puis à côté de ce ministère, je travaille beaucoup aussi avec la télévision nationale québécoise, où là je donne toutes les semaines 8 minutes. Alors ça, c'est très important parce que c'est 250 000 à 300 000 téléspectateurs. Là, je prêche sur l'évangile du jour. Il y a aussi une petite rubrique qui s'appelle « 2 minutes pour vous » où je réponds à une question des téléspectateurs.
L'évangile à cœur ouvert, lorsqu'on l'ouvre, on trouve une page d'évangile ou un paragraphe de l'évangile, un passage de l'évangile, et ensuite, eh bien, une méditation, un commentaire actualisé. Comment ce livre vous est venu, ou vous, peut-être, dois-je dire, vous a échappé?
Oui, eh bien, écoutez, tout simplement, je pense que vous faites le même constat que moi. L'évangile n'est pas connu. Le Christ, son amour, n'est pas encore connu. C'est épouvantable. Après 2000 ans de christianisme, on se rend compte que ce texte sacré passe à la trappe. Bien sûr, les paroissiens l'entendent chaque dimanche, peut-être parfois, disons-le, d'une oreille distraite, même le prêtre qui vous parle, nous prêchons tous les jours, et puis on a peut-être, finalement, on passe à côté de ce que vraiment Jésus attend. Moi, j'ai réalisé, en réalisant ce livre, que je ne vivais que 5% de ce que Jésus demandait. Alors, oui, j'ai divisé l'évangile. L'évangile est complet dans ce livre. Ensuite, je déploie le mystère, c'est-à-dire je redis ce que j'ai compris de ce que Jésus dit ou vit. Et puis ensuite, j'essaie de l'actualiser pour que nous puissions en profiter encore.
Comment souhaitez-vous que ce livre soit lu et par qui? Parce que, il me semble, dans ce que vous dites, c'est vous parlez de vous-même 5%, mais peut-être le paroissien 1%.
Oui, alors le paroissien aussi doit essayer de s'appliquer à vivre l'Évangile, parce qu'on l'entend, comme je disais tout à l'heure, mais j'espère aussi qu'il sera lu par des gens qui sont complètement étrangers à la foi, mais qui ont besoin de recevoir une lumière de sagesse. Pourquoi aller la chercher au bout du monde? Vous voyez, dans des spiritualités orientales, pourquoi pas? Tout ça, là-dedans, il y a des éclats de sagesse, mais l'Évangile contient vraiment les agissements de Dieu. Donc c'est important quand même de le voir vivre, de le voir se mouvoir, de le voir regarder les êtres, voyez, de voir les gestes qu'il pose, les désirs qu'il habite, puisque nous, toute notre vie chrétienne consiste à ressembler au Christ. Et je pense qu'avec toute notre histoire chrétienne, vous savez, elle contient donc 2000 ans de merveilles, mais aussi d'erreurs aussi, il faut bien dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur de ce que Jésus attendait. Il faut revenir au texte. Il faut revenir au Christ lui-même et le regarder vivre, le regarder respirer, le regarder s'exprimer.
Alors, lorsqu'on feuillette ce livre, on constate qu'on peut le prendre à n'importe quel endroit. Vous dites que le mystère se déploie de la première à la dernière page, mais en même temps, on peut faire une plongée dans un passage, rechercher un passage que l'on connaît, ou simplement se laisser entraîner. J'en prends un. Matthieu 18, 21. Alors Pierre, s'approchant, lui dit, « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Bon, moi je comprends qu'on n'arrive pas là, c'est divin, ce n'est pas humain ce que Jésus demande.
Oui, il est certain que le pardon est une œuvre héroïque. Vous savez, quand quelqu'un vous a vraiment blessé, vous a fait du mal, ou je sais pas, a porté atteinte à l'un des vôtres, il est tout à fait normal que nous soyons en difficulté pour accorder ce pardon. Mais le pardon, c'est le grand moyen que Jésus nous a donné pour que la relation d'amour puisse repartir. Alors, une relation d'amour où, si ce n'est pas possible, si on a tué votre enfant, ça ne sera pas possible de rentrer dans une amitié avec le criminel, mais au moins de bienveillance. Vous voyez, donc, il faut bien comprendre que le moyen le plus absolu que Jésus nous donne, c'est cette démesure d'amour qui s'appelle le pardon.
Là, il faut quand même que l'Esprit-Saint nous aide sérieusement, mais je crois entendre dans ce que vous dites, ce que disait le pape François dès les premiers jours de son pontificat. Ne nous lassons pas de demander le pardon, parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Pourtant, ce message de miséricorde du souverain pontife, quelquefois, on l'a traité avec un petit peu de légèreté, se disant, bon, bah, si c'est tout est miséricorde, donc je peux pécher tant que je veux. On n'a pas forcément compris ce message de miséricorde, et même on n'a tout simplement pas compris que c'était le pape qu'il nous fallait pour notre époque.
Oui, et puis vous voyez, on n'a pas compris ce qu'était Dieu. Parce que Dieu notre Père, il faut bien l'appeler toujours comme ça, moi je dis jamais Dieu tout seul, Dieu notre Père, c'est un bon Père, il est là, il nous comprend dans les profondeurs de notre être, il atteint même, je pense, une zone en nous que nous n'atteignons pas nous-mêmes, il a une connaissance très profonde de ce que nous sommes et qui explique les actes que nous avons posés ou les désirs qui nous étreignent. Oui, en effet, vous parlez du pape François, je suis content que vous disiez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien reçu, il faut dire les choses comme elles sont, et souvent dans le monde catholique, et j'en souffre énormément. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le catholicisme est en très mauvaise posture, du moins dans notre vieille Europe. C'est le moins qu'on puisse dire. 4% de pratiques religieuses, 1% dans certaines villes. Le monde rural est à l'abandon, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des prêtres merveilleux qui se donnent un mal fou. L'autre jour, on me parlait d'un de mes confrères qui a 64 paroisses. Il est âgé, il se donne un mal fou. Je trouve ça merveilleux, mais n'empêche qu'il se retrouve devant des petites assemblées de 4-5 personnes. Et il a encore le courage avec sa voiture d'aller leur donner la Sainte Eucharistie, ce qui est merveilleux. Mais voyez dans quel état est notre pays. Il ne faut pas se laisser prendre par les grandes villes où les choses fonctionnent encore en raison de la sociologie. Paris, il y a un travail merveilleux qui est fait, il y a encore énormément de prêtres, toutes les paroisses semblent tourner, du moins dans l'ouest parisien. Là encore, soyons prudents, mais attention, attention, attention. Il y a une belle jeunesse qui est là et qui suit, elle est formidable, il faut l'encourager, mais elle est minoritaire. Quand vous pensez qu'à Paris, par exemple, il y a 200 000 jeunes, 100 000 qui sont de Paris et de la région parisienne, et 100 000 autres qui viennent d'autres pays, c'est tout à fait normal que nos églises les contiennent, du moins en contiennent une partie. Alors, pour revenir au pape François, oui, je vous dis, si nous ne nous réunissons pas autour du pape, et je dirais autour du Saint-Père, parce que quand on est catholique, on prend le pape que Dieu nous donne. On a été, mais vraiment, infiniment porté par le pape Jean-Paul II. Vraiment, c'était vraiment l'universalité de Dieu, ce pape. Ensuite, nous avons eu le pape Benoît, qui a été merveilleux, Benoît XVI. Le pape, c'était la classe de Dieu, je dirais. Hein, l'intelligence de Dieu, un être sublime, et nous l'avons suivi en tout ce qu'il nous a dit. Et maintenant, nous avons la tendresse de Dieu, si je puis dire, la miséricorde de Dieu à travers le pape François, et il faut que nous l'accueillions. Alors, il a les points de vue qu'il a, sur des questions politiques, c'est important quand même de l'écouter, parce que c'est présomptueux de ne pas écouter le Saint-Père. Mais en même temps, nous sommes libres. Mais en matière de foi, et disons-le, en matière de morale, il est important de le suivre. Et aujourd'hui, que fait-il ? Eh bien, il ouvre grand les bras et dit « venez, venez ». Et j'ai peur qu'il les referme un peu, sous un catholicisme trop étroit qui ne le laisse pas faire. Mais en fait, il dit, voilà, quelle que soit votre situation humaine, quels que soient les choix de votre vie, je pense, dit-il, qu'il y a de la noblesse dans ce que vous vivez et nous devons être capables de la reconnaître. Vous savez, si nous continuons de dire aux êtres, vous n'êtes pas dans les clous, vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on n'arrête pas de vivre comme ça, nous allons nous retrouver à 0,5%. Alors vous allez me dire, oui, mais il ne faut rien enlever de ce que l'Église nous demande. Oui, mais voyons d'abord ce que le Christ nous dit. Ça, c'est essentiel. Reprenons l'Évangile. Soyons fidèles à l'Évangile. Et si on est fidèle à l'Évangile, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ est un être sublime, sublime dans l'amour. Et que s'il est dur, c'est avec ceux qui se prétendent justes, et qui sont des pharisiens, des êtres qui s'imaginent qu'ils ont parfaitement compris la loi de Dieu et que c'est de cette manière-là qu'on la suit. Or, un père de famille, une mère de famille, se rend bien compte qu'avec leurs enfants, eh bien, les choses ne marchent pas comme ça. Alors, on donne la même éducation, on fait tout pour leur donner le meilleur, mais on voit qu'il y a des dispositions. Et il y a des êtres, tout d'un coup, il y a le petit, eh bien, il est plus faible que les autres. Et on s'adapte. Et je crois que l'adaptation est une des grandes qualités du Christ et une qualité que nous devons avoir, nous les chrétiens. Dans le monde, nous sommes chargés de répandre la démesure de l'amour. Voilà. Alors, si cette démesure de l'amour, elle est arrêtée par des principes qui ne viennent pas du Christ, mais de choses bonnes, telles que notre éducation, notre culture, mais qui ne viennent pas vraiment du Christ, attention, ne disons pas que c'est Dieu qui nous demande de vivre ainsi, Dieu notre Père.
C'est pour ça que votre livre est très précieux, parce qu'il nous ouvre l'Évangile, il nous permet d'y entrer, il nous donne des portes d'entrée dans l'Évangile, il nous donne de nous familiariser, je dirais, c'est on peut faire une retraite de carême ou une retraite d'avant en lisant votre livre et en comme disaient les moines, en ruminant la parole, page après page, mais j'allais dire aussi verset après verset, et comme vous le disiez, en prenant ce qui est possible pour chacun là où il en est, au moment où il ouvre le livre. Je prends cette autre page. Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté la semence sur la terre et dormirait et se réveillerait de nuit, de jour. Or, la semence pousse et grandit sans qu'il sache lui-même comment. » Vous êtes un semeur.
Eh bien écoutez, comme beaucoup d'autres, hein, parce que moi vous savez, je suis un pauvre serviteur de Dieu, j'essaie de vivre mon sacerdoce en mettant l'amour au cœur de mes actes, mais c'est jamais gagné, il faut toujours se reprendre, et c'est une longue aventure. Vous voyez que vous vous souvenez sans doute que François d'Assise, avant de mourir, a dit, juste avant de mourir, il a dit ces mots, « commençons à faire le bien ». Alors on recommence tous les jours, on prend sa vieille défroque le soir, on la pend au porte-manteau et le lendemain on se réveille, tout vierge comme ça, et on recommence avec le désir d'aimer. Vous savez, l'Église doit faire apparaître le visage du Christ. C'est ça notre fonction. Alors le prêtre, comme tout baptisé, doit essayer de refléter ce visage du Christ. Et puis on va mourir. Moi, tous les jours, je me dis ça. J'étais marqué par la mort depuis mon enfance, bien sûr, puisque j'ai perdu ma mère enfant. Mais je peux vous dire que je pense à la mort tous les jours et que je me dis, s'il me reste encore quelques secondes à vivre, quelques minutes, quelques heures, quelques mois, quelques années, eh bien, je vais en profiter pour aimer. C'est-à-dire pour m'oublier et tenter de travailler au bonheur des autres. Et je pense que le Christ a passé son temps à travailler au bonheur des autres. Parce que quand vous voyez sa journée, vous voyez que, bien sûr, il enseigne. Qu'est-ce qu'il enseigne ? Le Père. Le Père, avec toute la puissance de sa pensée, ce qu'il attend de l'homme, très bien. Et à côté de ça, il les guérit, il leur donne à manger, et il nous pousse à en faire autant. Et ça, vous voyez, nous devons tout au long de la journée songer à ce bonheur le plus concret des hommes. Alors votre semence, oui, dont vous me parliez tout à l'heure, pour revenir à votre question, oui, on sème de l'amour. Et je suis tellement heureux que la phonétique du verbe semer soit celui d'aimer. Hein, vraiment, on sème, et ben oui, on sème. Et en s'aimant, on sème la bonne graine de Dieu.
Alors, je vais faire l'avocat du diable, parce qu'on comprend qu'un prêtre nous donne à manger, hein, il donne la béquille de l'évangile, comme ça, à cœur ouvert et à livre ouvert. Avec toute cette liberté que donne un tel livre, de feuilleter l'évangile où l'esprit nous pousse. Par contre, ce qu'on peut peut-être moins comprendre, c'est qu'un prêtre chante et se dédie à ce ministère inhabituel pour nous de composer, de travailler sa voix. Je suppose qu'il y a tout un travail de mise en place de la voix, d'articulation, et puis aussi de trouver la mélodie qui s'adapte. Alors, comment est venu pour vous, on peut dire, ce charisme de donner la béquille, pas seulement avec des livres, mais par la musique en chantant?
Lorsque j'avais 20 ans, disons donc l'année dernière, lorsque j'ai eu 20 ans, j'étais conscient qu'il fallait passer par la musique pour essayer de toucher le cœur humain et le soulever. Vraiment, j'ai toujours pensé ça. Alors, bon, j'avais quelques dispositions musicales, j'avais des parents aussi qui étaient très musiciens. En même temps, la poésie a été un peu mon univers. Alors j'ai écrit des chansons, j'ai eu le bonheur de rencontrer lorsque j'étais jeune Tino Rossi qui m'a beaucoup aidé, Aimé Barelli, un très grand chef d'orchestre français, et donc je me suis jeté dans cette aventure en me disant voilà, je vais composer des chansons, je vais essayer de faire carrière et à travers ça je convertirai toute la France. Alors ça n'a pas marché, j'ai vécu pendant 10 ans de ce métier à Paris quand même, quand je vois aujourd'hui la difficulté pour les jeunes musiciens, pour les artistes, pour les chanteurs de travailler tous les jours, moi j'ai travaillé tous les jours pendant des années, mais j'avais cette vocation sacerdotale et il a bien fallu que je la réalise. Mais voyez, on revient toujours à ses premières amours et je continue de penser que nous sommes trop sérieux, tout simplement. Il y a trop de sérieux, voyez, même nous au sein de l'Église, on a toujours des problèmes à régler. Bon, bien sûr, on s'occupe des drames de la condition humaine, très bien, mais en même temps, il faut donner de la joie, il faut donner de l'amour. On ne peut pas être toujours que dans le camp du permis, de l'interdit, voyez, puis des réflexions sur des problèmes importants. Comme disait Montesquieu, la gravité, c'est le bonheur des imbéciles. Alors, sans exagérer, moi, je pense qu'il faut aussi qu'on soit justement du côté de la joie. Alors, depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai réalisé donc un album avec Warner, un album de 12 chansons que j'ai écrites moi-même, la parole et musique. Et puis maintenant, je me suis dit, puisque j'ai fait d'autres chansons, allez, on va faire un spectacle et je vais donner ça dans un théâtre lambda. Hein, alors un beau théâtre, le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet, qui se trouve à côté de la Madeleine. Et là, donc, le 19 janvier, accompagné de 6 musiciens, qui ont accompagné d'ailleurs les plus grands, Charles Trenet, Francis Lemarck, tous ces êtres-là, eh bien, je suis heureux d'offrir ça à tous ceux qui viendront. Et le théâtre est déjà presque plein, hein, donc il faut se dépêcher pour retenir sa place. Mais c'est une joie de voir, je pense, un prêtre en soutane, sur scène, et je vais chanter toutes les valeurs chrétiennes. Il y a une ou deux chansons où réellement je vais parler du Christ et de Marie, parce que c'est toute ma vie, mais sinon je vais essayer d'apporter toutes les valeurs qu'ils nous ont communiquées, tous les deux. Ça, c'est mon désir. Et puis, il y a des personnes qui passent par ce moyen, qui ne liront jamais ce livre et tous les autres que j'ai pu écrire, parce que ce n'est pas leur moyen, ils sont touchés par une mélodie, voyez. Et alors, d'autre part, je vous dirais que je suis quand même assez bouleversé de voir, si vous voulez, l'état actuel musical. c'est une musique standardisée. Vous allez dans tous les magasins, vous entendez la même musique, enfin si on peut appeler ça musique. Hein. Il y a des choses très bonnes qui sont faites, bien sûr, on ne va pas généraliser, mais quand même, on vit dans un milieu musical unilatéral. Alors moi, je suis pour que tout vive, la techno, le métal, tout ce que vous voulez, mais qu'en même temps, la grande tradition de la chanson française demeure. Vous voyez, il y a comme une grande rupture. Il y a eu une rupture. Barbara, Georges Brassens, Jean Ferrat, que sais-je, Charles Trenet, tout ça, à un moment donné, stop, ça s'arrête. Et pourtant, il y a une grande attente de ce côté-là, j'en suis sûr. On a besoin de mélodies, on a besoin de textes. C'est nous, les Français, qui avons inventé la chanson à texte. Il faut qu'elle continue à vivre. Alors, je sais bien que je ne vais pas, sans doute, atteindre les jeunes de 20 ans, mais ce n'est pas grave. Moi, j'estime qu'on est toujours jeune, même à 70. Mais je suis sûr que des personnes qui ont déjà 35 ans, 40 ans, ils ont leur famille, où ils vivent leur amour, et puis ils ont fait déjà un tour de piste, et ils ont envie d'autre chose, eh bien, seront sensibles à ce style musical. Parce que là, d'autre part, c'est une création nouvelle, mais dans l'esprit des chansons qu'on a toujours traversées, des années 40 jusqu'aux années 80.
Tout le monde n'aura pas la joie d'aller au théâtre de l'Athénée. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu plus dans le détail quel sera votre programme pour nous donner cette saveur et puis où nous pouvons vous écouter en dehors du théâtre de l'Athénée.
Voilà, alors écoutez, les chansons, je vous dis, ce sont toutes les valeurs évangéliques qui touchent les mystères de la vie. Jésus n'a parlé que de la vie telle qu'il veut que nous la vivions. Alors, par exemple, il y a une chanson « La promenade de la vie », « Après quoi court-on ?» La faute à qui ? La faute à moi ? Vous voyez, une chanson comme ça, il y a une chanson sur une personne âgée que je vois dans le jardin du Palais Royal, mon vieux copain, qui m'a beaucoup touché. Je me souviens très bien de sa présence, une présence très aimante, mais totalement abandonnée. Ben, j'en parle. Il y a une chanson sur le mystère de l'amour, quand il commence à naître, notre besoin d'aimer. Il y a une chanson sur l'Esprit Saint, aussi, il y a une chanson sur l'Esprit Saint, que j'ai appelée Le Petit Génie, où je montre comment il nous conduit à longueur de journée. Mais vous voyez, c'est encore un spectacle qui ne s'adresse pas qu'à des seuls catholiques. C'est vraiment pour tous. Je vous dis, il y a une chanson sur Marie, évidemment, mais là, c'est la mère universelle. Personne ne la rejette, c'est ça qui est merveilleux. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, si l'évangélisation piétine, c'est parce que Marie n'est pas assez annoncée, j'en suis sûr. On va trop vite vers des considérations qui regardent le concret de notre vie, la morale. Je ne suis pas contre la morale, mais les moralisateurs sont des raseurs. Et l'amour est un plaisir magnifique. Et donc, vous voyez, il faut qu'on soit de ce côté-là. Alors, il y a beaucoup de chansons sur l'amour, et puis des réflexions sur la vie. Ça, je pense que ça sera une très belle soirée. Et puis, il y a deux reprises. Je veux rendre un hommage à Charles Trenet, parce que je l'ai beaucoup aimé, et il m'a aidé à vivre, puisque j'ai beaucoup chanté ses chansons. Donc, il y a une chanson de Charles Trenet que tout le monde chantera avec moi, que tout le monde connaît. Et puis, il y a une chanson aussi de Jacques Prévert, les paroles écrites par Jacques Prévert, une très belle chanson que tout le monde connaît et que tout le monde chantera. Ça va être une belle soirée, on va chanter tous ensemble. Mais ça sera, je crois, un moment de choix où on va renouer avec cette grande tradition française, mais pas du tout ringarde, puisque c'est une création nouvelle. Alors, pour m'écouter, en dehors du CD, qui est toujours en vente d'ailleurs, qui s'appelle « Bonjour la vie », ça c'est un beau cadeau de Noël qu'on peut toujours faire, là il y a les 12 chansons, eh bien il y a sur Spotify, sur toutes les plateformes, sur Deezer, toutes les plateformes sur Internet, on peut écouter ces chansons. Alors, je prépare aussi un autre album. Ça, c'est important, et dans lequel, d'ailleurs, il y a une petite surprise, puisque j'ai écrit un texte sur le poète Max Jacob, qui a eu une vie tout à fait particulière, grand ami de Picasso, d'Apollinaire, de Jean Cocteau, de tous les amis. Et ce texte, eh bien, figurez-vous que Jean Pia, en prenant connaissance, a été touché profondément et a décidé de l'enregistrer. Alors, nous l'avons fait ensemble, et dans mon prochain CD, il y aura aussi un hommage donc à Jean Pia, qui nous a quittés il y a seulement 2-3 mois, et où il donne ce texte sur Max Jacob. Donc voilà, c'est un beau CD qui se prépare, et puis j'espère faire une tournée avec ce spectacle, ce récital de chansons. Je voulais aussi préciser que je dépends de l'évêque de Marseille, toujours Monseigneur Pontier, qui me permet d'accomplir ce ministère en grand vent, si je puis dire, hein, et je suis en grande communion avec lui. C'est important, parce qu'on pourrait penser, qu'est-ce que fait ce prêtre ? Non, non, je suis à Paris, parce que c'est nécessaire pour toutes ces activités, pour la télévision québécoise, il faut que j'enregistre aussi toutes ces émissions, en même temps pour ce travail artistique, donc je suis ici à Paris, mais toujours en lien avec Marseille, et je le redis, en communion avec Monseigneur Pontier.
Et si le pape vient à Marseille, comme la rumeur en courait, vous y seriez ?
Écoutez, mais bien sûr, c'est notre père. Oui, je le redis, il faut lui faire confiance. Il faut arrêter d'avoir un jugement négatif dès qu'il dit quelque chose. On l'a même accusé de faire des homélies trop simples. Mais nous sommes fous. Tous les messages les plus simples sont les plus importants. Tout le reste, c'est prout-prout, c'est pour tous les intellos de salon. Très bien, très bien. Il nous faut d'ailleurs des intellectuels. Mais ce qui compte, c'est de toucher, voyez, les êtres là, qui nous entourent. Vous savez, la petite vendeuse de Monoprix, le gendarme avec ses deux enfants. Ce sont ces êtres-là qu'il nous faut et qui devraient peupler nos églises et qui jadis les peuplaient. On ne les a plus. Il faut atteindre ces classes moyennes, si je puis dire, puis ces braves gens qui travaillent, qui se donnent un mal fou, qui ne sont pas contre le Christ. Parce que vous savez, moi je le constate, je suis invité dans des milieux, même des milieux artistiques, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, mais il y a une méconnaissance, des a priori, ça oui. Il y a de nombreux a priori qu'il faut casser. Par exemple, je vous en dis un, c'est vraiment, me semble-t-il, il est très répandu, hein, c'est que les êtres ont l'impression que quand ils vont suivre le Christ, aller à la messe, ils vont perdre leur liberté. Ils ne vont plus pouvoir conduire leur vie comme ils l'entendent. Mais s'ils pensent ça, c'est parce que nous, il faut le reconnaître, par moments, nous avons dirigé de manière outrancière la vie des hommes. C'est-à-dire en allant trop loin, en descendant trop loin et en nous substituant à leur liberté de choix.
Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, l'Évangile à cœur ouvert nous permet de rencontrer l'Évangile et votre récital et votre activité musicale permet que l'Évangile rencontre les gens. C'est un peu ça ?
Voilà, c'est exactement ça. Vous avez tout dit, Anita. C'est exactement ça. Alors, tout ce travail, que ce soit mes rencontres personnelles, le travail avec la télévision québécoise, que ce soit le travail avec les musiciens, le récital qui se prépare, mon travail littéraire, eh bien, je pense que tout ça est au service de Jésus. Alors, malgré mes péchés, malgré mes limites, et je le dis en toute vérité, malgré toutes mes faiblesses, je suis heureux d'être un homme et un prêtre au service de Jésus et au service de l'Évangile.
Merci infiniment, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Vous avez publié chez Robert Laffont l'Évangile à cœur ouvert et vous serez au Théâtre de l'Athénée le 19. On peut retrouver votre CD, on attend le deuxième, et sinon c'est Spotify et Deezer. Merci infiniment.
Merci à vous, chère Anita. Merci de tout cœur.
C'était Rencontre.